Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois en interview numéro 2 Cécile Morisson, directrice générale CITAM, qui est l'aménageur du groupe Polylogie. Bonjour Cécile.
Bonjour Myriam.
Alors interview numéro 2 parce que je vous incite d'ailleurs à écouter l'interview numéro 1, mais on n'a pas tiré le fil de l'expérience CITAM. On a travaillé pas du tout, puisque c'était tellement fluide et agréable que c'était pas du tout un travail. C'était une manière d'expliquer l'évolution de l'aménagement, la manière dont l'aménagement principalement en Île-de-France, les problématiques ont évolué. Et là, j'aimerais bien qu'on se concentre sur CITAM, puisque la spécificité de CITAM, c'est qu'elle est, c'est un aménageur adossé à un groupe, donc un groupe de logements à la base. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe du logement pluriel, puisque c'est plusieurs types de logements, bien évidemment, puisque le groupe Polylogie est un groupe qui fait de l'accession et du social et des résidences spécifiques, mais on en parlera avec vous, bien évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'on décide, on prend la décision de se doter d'un outil d'aménagement ?
Alors, le groupe s'est doté de cet outil en 2019.
Donc, c'est récent.
C'est relativement récent, tout à fait, parce que il faisait le constat que l'environnement changeait et qu'il était nécessaire, finalement, pour le groupe de se débrouiller un petit peu tout seul pour trouver des solutions pratiques, pragmatiques, à son développement, à son redéploiement. Et donc, a pris le pari d'oser faire de l'aménagement.
C'était pour pas se faire imposer des choses ? C'était quoi ? Un petit peu ?
C'est vrai que il y a une culture très forte de l'indépendance dans ce groupe. Non, je crois que c'est plutôt aussi une manière de se, tout simplement, alors c'est un mot un peu galvaudé, mais de se réinventer, de chercher des solutions. Mm-hmm. Vous connaissez ma présidente, Karine Julien, c'est quelqu'un de très pragmatique.
Bien sûr, qu'on a eu l'honneur d'avoir à ce micro.
Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, mon prédécesseur, Hervé Gué, qui avait fait une grande carrière dans l'aménagement, a pris les rênes de cette société, l'a structurée, et j'ai pris la suite il y a maintenant 3 ans.
Et alors, du coup, c'est vous travaillez sur vos fonciers.
À 90%, oui.
90% sur vos fonciers. Oui. J'aimerais bien qu'il y ait un petit exemple un peu significatif, qu'on puisse expliquer à nos auditeurs, que ça leur donne le goût de comprendre ce qu'est CITAM sur un foncier existant. Je suppose qu'il y a, on va dire, des espaces verts un peu délaissés, des bâtiments restructurés, rénovés ou pas, des problématiques d'isolation thermique, donc ça c'est plutôt le bâti, mais entre deux, il y a une voie qui passe, une station de métro, diverses choses qui, au fur et à mesure, ont changé la physionomie de ce foncier. C'est un peu ça ?
Oui, tout à fait. Le constat initial, c'était de se dire, on a du foncier. Tous les aménageurs de la terre et les opérateurs pleurent parce que le foncier est rare, ils n'en ont pas. Nous avons des pépites. Mmh. Et donc, c'est comme ça que c'est un peu construit aussi la philosophie de cette nouvelle activité. Alors oui, je vais vous prendre un petit exemple. On va aller se promener à Gennevilliers. Je crois que c'est une commune que vous connaissez bien. Alors, là-bas, nous sommes peu implantés, c'est-à-dire qu'on a deux résidences spécifique et puis une résidence de logements familiaux de 210 logements qu'il était compliqué de réhabiliter. Alors il faut savoir que à chaque fois qu'on prend un foncier, la première des choses que l'on fait, c'est regarder la question de la réhabilitation.
Bien sûr, je
suppose. Des conditions de la réhabilitation.
Parce qu'il y a des vrais gens, comme on dit, des habitants, des locataires, qui ne verraient d'un mauvais œil qu'on travaille autour d'eux et pas chez eux.
Absolument, absolument. Et puis, pour un bailleur, pour un propriétaire foncier.
Bien sûr, parce qu'à la base, c'est quand même votre rôle.
Exactement, de venir même démolir, un acte un peu douloureux.
Grave.
Ouais, dans le sens premier du terme.
Humain, bien sûr.
Voilà. Donc, nous avons étudié effectivement ce bâti qui ne pouvait pas être réhabilité pour plein de raisons ou à des coûts qui auraient prolongé la vie du bâtiment, mais on l'aurait seulement prolongé. On n'était pas en soins palliatifs, mais pas.
C'était
pas
une
si
résidence
loin.
Des années quoi, 60, 50,
oui,
60.
Oui, oui, oui. On est plutôt sur la fin des années 60, sur du R+13.
Ah oui.
Alors qu'il y a quand même des qualités, hein, parce que par exemple, c'est une des vues
sur le grand
des
paysage.
Balcons. Ouais. Des balcons, tous les logements ont des balcons, ce qui est assez étonnant pour cette période-là. Mais pour autant, des difficultés en matière de sécurité incendie, des difficultés structurelles, des ascenseurs qui s'arrêtent à mi-palier, enfin bon, bref, voilà. Le maire avait souhaité aussi qu'on réinvestisse ce patrimoine et donc... À force d'études, nous avons opté pour la démolition complète. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que quand on démolit complètement autant de logements, eh bien, la première des questions, c'est comment on travaille avec les familles, comment on reloge toute cette population, et comment surtout...
Qui a des habitudes, des scolaires,
sûr,
etc. Donc ça doit être dans un périmètre relativement proche. On ne peut pas disperser les gens dans le territoire.
Alors c'est là où intervient les discussions avec la ville, et puis surtout avec les habitants, parce que initialement l'opération a été montée donc, avec CEMAC 92, nos confrères aménageurs locaux, qui sont très dynamiques sur la ville de Gennevilliers, et donc... dans le cadre d'un partenariat, nous a proposé des fonciers permettant l'accueil d'une partie des locataires dans une très belle ZAC, la ZAC des Chantraines, mais c'est vrai qu'il est un petit peu loin. Et donc, ça a été l'une des premières critiques de nos locataires, parce que ça fait vraiment partie de notre mantra que de mettre les habitants au cœur de la discussion. Donc, très vite, on va voir les habitants. Très vite, on leur propose...
Déjà, vous leur exposez le fait que votre, leur immeuble, leur maison, leur appartement, leur lieu, leur cage d'escalier, leur voisin, etc., etc.
Tout cela va changer.
Voilà.
Et ça, il faut le commencer suffisamment tôt pour que ça mûrisse.
Ouais.
Mais pas trop tôt non plus, parce que si jamais, pour une raison ou pour une autre, le projet s'arrête...
Bien sûr.
On est bailleur, donc on reste en responsabilité face à nos locataires, à notre client. Et donc, à la suite des premières réunions publiques, il s'est avéré qu'effectivement, les locataires nous reprochaient cet éloignement. Donc on a continué à travailler, on a continué à investiguer de manière très précise les besoins des locataires par des enquêtes auprès d'eux. Et grâce au dynamisme de la ville, on a pu revenir les voir avec d'autres propositions qui ont à la fois porté leurs fruits parce que pour deux raisons. D'abord, ils étaient ravis de pouvoir choisir. La question du choix est vraiment fondamentale. Et là aussi, ça fait partie de nos mantras que de rendre nos locataires actifs de leur changement.
Ce qui est rare, parce que parfois, ils ont l'impression de subir quelque chose et de pas avoir un mot à dire. Ils ont l'impression que leur parole n'est pas entendue. Qu'est-ce qui fait que, justement, on arrive à changer les choses?
Le dialogue, toujours et encore, le dialogue. Par nature, on choisit pas d'être dans le logement social. C'est une évidence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus précautionneux dans la manière dont on conduit nos projets et dans la manière dont on construit le dialogue avec eux. On les connaît intimement par l'activité de bailleur. Alors, c'est pour le meilleur et pour le pire, parce que parfois, vous arrivez...
Les familles recomposées, les problématiques humaines intimes, on va dire.
Tout à fait. Mais ça nous donne aussi une force. Parce qu'on va d'autant plus construire avec ce que l'on sait.
Donc là, vous avez travaillé avec eux.
Oui.
On est dans cette idée de travail. Et puis, du coup la plupart des gens ne souhaitent pas aller dans la ZAC des Chantraines, qui est loin.
Souhaitaient. Maintenant,
ne souhaitaient pas.
Du fait qu'ils aient le choix. Et bien, parce qu'ils ont le choix. Et du fait qu'ils aient le choix, et bien finalement...
Donc, ils ont le choix entre quoi et quoi?
Eh bien, entre aller effectivement dans ce beau quartier neuf.
Nouveau quartier.
Nouveau un peu plus loin, et puis sur des fonciers un peu plus proches, ou même in situ, parce qu'on va pouvoir recomposer
d'accord.
in situ.
Donc in situ, vous avez quand même décidé, avec, on va dire, ces trois résidences que vous aviez, des résidences dédiées et ce bâtiment de 13 étages, à partir de ce foncier-là, vous avez décidé de reconstituer quelque chose. C'est ça qui est intéressant, on va dire, pour les auditeurs aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on recompose? Parce que sur la ZAC des Chantraines, c'était dans des logements neufs, dans un quartier neuf.
Oui.
On va dire que ça, tout le monde peut l'imaginer. dans, sur ce foncier-là, comment vous avez pris, tiré le fil, hein?
Alors, c'est vrai que c'est pas toujours très simple in situ. La première des choses, ça a été de regarder comment pouvoir construire avant de démolir. Et donc, on va pouvoir commencer un premier lot de logement social in situ avant d'engager les différentes démolitions. Donc, tout ça se tricote d'une manière extrêmement précise.
Joli mot.
Parce que on doit mettre en lien à la fois les opérations qui sont sur des fonciers tiers et puis les opérations qui sont sur notre propre foncier. Et là où c'est très, très intéressant, c'est que même, encore une fois, la ZAC des Chantraines, qui au début faisait peur, maintenant suscite l'adhésion. Donc finalement...
Parce qu'elle n'est pas si loin, parce qu'il y a des transports,
exactement,
parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts, parce qu'il va y avoir de beaux bâtiments.
Exactement, et parce que surtout on leur a donné le choix. Et donc dès lors où le
choix... Très intéressant, le choix, voilà. Bien sûr.
Alors, et c'est là où il faut avoir des grandes ressources en interne, et c'est là où on travaille effectivement en synergie avec le bailleur, c'est que ça donne beaucoup de travail à nos collègues du relogement, parce que voilà, il faut aligner
Les
besoins,
et parfois du coup là c'est beaucoup plus long parce que les habitants refusent, redemandent à visiter, etc. Comment ça se fait? Parce que le relogement, c'est pas toujours facile, hein.
Non, c'est effectivement une des clés de nos opérations d'aménagement, parce que sans relogement, rien ne se fait. On ne peut pas démolir, on ne peut pas revenir réinvestir le patrimoine, que ça soit même en réhabilitation, hein, là je parle d'une démolition complète, mais la plupart de nos opérations comprennent de la réhabilitation. Donc c'est vrai que cet aspect relogement est essentiel. Et l'autre aspect qui est essentiel également, et qui est différente de la pratique d'aménageur habituel, c'est qu'on a nos équipes de proximité. Et nos équipes de proximité sont les véritables baromètres, thermomètres, on peut les appeler comme on veut, du projet urbain. À la fois dans le quotidien, parce que vous pouvez leur parler aux habitants d'un projet de dans 10 ans, mais si les problèmes du quotidien ne sont pas résolus, vous êtes totalement inaudible. Et puis même dans l'appréciation des choses, parce que en atelier, en réunion publique, on va pas forcément dire la même chose que ce qu'on va dire en tête-à-tête avec son gardien autour d'une discussion informelle, qu'ils peuvent avoir. Donc vraiment, là, les équipes de proximité pour nous sont des ressources extraordinaires.
Alors, on n'a pas tout regardé et on n'a pas survolé, on a survolé un seul projet de l'activité de CITAM. Nous sommes au lendemain d'élections municipales. Les nouveaux élus vont être là maintenant pour 7 ans. Donc vous qui aimez le long terme, vous allez pouvoir avoir un dialogue sur peut-être du plus long terme avec les nouveaux élus. Ça va bien se passer ?
Mais oui, ça va bien se passer.
Tout va être dans l'écoute. Hein.
Exactement. On a une dizaine d'opérations aujourd'hui qui sont lancées, à peu près autant en développement. Ce qui est intéressant par rapport à notre activité, c'est que on maîtrise le foncier. Donc, dans un mandat, on est capable
de faire. Ouais, c'est formidable. Ce qui est rare.
Donc, les élus sont garantis de pouvoir accueillir de nouveaux habitants ou de pouvoir inaugurer de belles réhabilitations dans leur mandat.
Signer des permis de construire.
Ah, même plus que ça, d'avoir des réalisations bien qui sûr sortent de terre dans un mandat. Ça, c'est extrêmement précieux aussi pour eux. Donc, moi, je suis tout à fait convaincue qu'ils le seront de notre légitimité à venir leur présenter de beaux projets.
Merci, Cécile. Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.